Bienvenue dans notre émission Lire et méditer, avec des ouvrages bien sûr qui nous aident à faire grandir notre foi. Et mon coup de cœur pour la semaine, eh bien, c'est un livre que j'ai trouvé dans la bibliothèque des frères Capucins ici du couvent Saint-Antoine, une belle bibliothèque, et je leur ai emprunté un livre parce que j'ai vu surtout le nom de Louis Bouillet. J'avais donc ce prêtre théologien mort en 2004, qui a vraiment fait un travail remarquable, notamment, bon, moi j'ai beaucoup apprécié et même travaillé sur différents livres concernant l'Eucharistie, le mystère pascal, hein, tout ce qui est vraiment mystère pascal et Eucharistie, où en partant des bénédictions juives, il va faire tout un rapprochement et dévoiler ce que véritablement Jésus a célébré au cours de la scène du dernier repas et qui constitue les bases inébranlables, on peut dire, fondamentales en tout cas de la liturgie eucharistique. Alors donc, quand j'ai vu ce livre de Louis Bouillet qui s'intitule « Introduction à la vie spirituelle », eh bien je n'ai pas hésité, ayant beaucoup apprécié les volumes concernant l'Eucharistie et le mystère pascal, je me suis dit, ceci aussi doit être vraiment un bel ouvrage. Effectivement, donc dans cette initiation, en fait une initiation vraiment à la vie spirituelle, Louis Bouillet n'invente rien, il part sur la tradition de l'Église, sur la vie spirituelle selon la tradition catholique. J'ajouterais quand même que Louis Bouillet est issu d'une famille protestante. Il va faire ses études d'ailleurs à la faculté théologique protestante de Paris. Et par la suite, il sera ordonné même pasteur. Il aura la charge de la paroisse luthérienne de la Trinité à Paris jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Il est proche aussi des milieux orthodoxes. Et puis finalement, à travers tout aussi une conversion, on peut dire, ou tout un cheminement, quoi qu'il en soit, il sera reçu dans l'Église catholique. Et il deviendra prêtre et théologien catholique français. Alors, dans cet ouvrage, très bel ouvrage, vraiment que je vous recommande, on le trouve bien sûr toujours. Mais moi, j'ai une vieille édition, mais qui est très bien présentée aussi, donc avec une couverture en dur que moi j'apprécie beaucoup, qui date de 1960. Donc vous voyez, on peut encore trouver ce livre. Et il y a donc tout un chapitre sur la vie spirituelle dans la tradition catholique. Il y a la vie spirituelle et la parole de Dieu. Et également tout un grand chapitre avec différents paragraphes sur la prière, sur la vie sacramentelle, sur les principes de la vie ascétique. Vraiment, c'est un livre d'une richesse impressionnante. Tout trouvé dans cet ouvrage, l'ascèse et l'humanisme chrétien, l'ascèse de la croix, les différentes vocations chrétiennes, la spiritualité laïque, et puis les différentes vocations apostoliques, la vocation sacerdotale, les vocations religieuses, la spiritualité monastique. Il y a un chapitre aussi très intéressant sur le développement de la vie spirituelle qui s'appelle la purification. Cette purification, c'est le chemin de conversion, c'est la pénitence, le chemin vraiment de conversion. Et puis un autre chapitre sur le développement et les rythmes de la vie spirituelle, illumination et union. Et puis bien sûr la vie mystique et aussi une conclusion, les adjuvants de la vie spirituelle, très intéressant. Une très belle conclusion. Très intéressante. Donc voilà, alors il m'était très difficile de choisir, vous vous en doutez, des passages que retenir. L'ouvrage fait à peu près 300 pages. Donc, alors je vais juste commencer le début, comme je le fais souvent, c'est-à-dire la vie spirituelle selon la tradition catholique. Et puis ensuite, j'ai choisi de vous parler de la vie spirituelle et la parole de Dieu, bien qu'il y ait aussi très grande richesse dans la vie sacramentelle et sur ensuite les différentes formes de prière, de vie vocationnelle, de réponse vocationnelle. Donc là aussi où il revient sur vraiment sur l'histoire, sur les bases, à la source, dirons-nous. Donc le début. Une introduction à la vie spirituelle doit commencer par bien préciser de quoi l'on parle en utilisant cette expression. Il faut donc partir d'une définition de la vie spirituelle. Mais une telle définition ne peut éviter à la fois le vague et l'abstraction si l'on ne rapproche d'emblée vie spirituelle de deux autres formules plus ou moins synonymes, c'est-à-dire vie religieuse et vie intérieure. Remarquons d'abord qu'on utilise couramment ces trois expressions dans un sens incertain qui tendrait à les confondre. Alors j'ouvre une petite parenthèse. Louis Bouilhet, il est amoureux des mots aussi, c'est-à-dire de l'origine ou des mots originels, à savoir le sens premier de toutes choses qui ont été nommées, et notamment justement dans la vie spirituelle. Donc c'est pour ça qu'il fait tout un laïus là-dessus, parce que pour lui c'est très important. Lorsqu'on parle, par exemple, je me souviens dans l'ouvrage sur l'Eucharistie, lorsqu'on parle de mystère pascal, d'Eucharistie, qu'est-ce que cela signifie, d'où ça vient exactement, etc. Alors, je poursuis avec Louis Bouilhet. Nous devons constater qu'il a existé, voire qu'il existe encore, des formes de vie religieuse qui n'impliquent aucune vie spirituelle, ni aucune vie intérieure proprement dite. La vieille religion latine, celle des paysans païens du Latium, ne comprenait rien d'autre que l'accomplissement correct de certains rites avec la répétition exacte de certaines formules. Plus tard, nous le voyons chez Cicéron, un pontife comme Cotta pouvait être considéré comme irréprochable lors même qu'il mettait ouvertement en doute l'existence des dieux. Qu'il y crût ou non, c'était son affaire personnelle. Tout ce qu'on lui demandait, c'était de bien faire les rites et de bien prononcer les formules. De tels cas, évidemment, sont des cas extrêmes, mais dans le christianisme lui-même, chez les catholiques, mais aussi chez les protestants, et bien que ces derniers aient tendance à minimiser la valeur en soi de la religion extérieure, on trouve des gens dont la religion, en fait, consiste surtout, sinon exclusivement, dans des pratiques ou des bonnes œuvres. Aller ponctuellement aux offices, s'acquitter régulièrement d'obligations rituelles, réception des sacrements ou lecture de la Bible, n'est-ce pas sinon le tout au moins l'essentiel de la piété de bien des chrétiens qui peuvent être très sincères et même dévots à leur manière? Pour d'autres, la religion consistera principalement dans un activisme charitable où ils se dépenseront sans compter pour toutes sortes d'œuvres de services sociaux. Sans doute, ni l'un ni l'autre cas, on les trouve d'ailleurs souvent combinés, ne saurait représenter pour celui qui réfléchit quelque peu un christianisme idéal. Mais c'est le tout ou du moins le principal du christianisme de beaucoup de gens, lesquels sont souvent de très braves gens bien intentionnés et non point des pharisiens hypocrites. D'un autre côté, dans cette forme du bouddhisme qui semble particulièrement pure et primitive et qu'on nomme Hinayana, c'est-à-dire le petit véhicule, nous trouvons ce qu'on a pu appeler une religion sans Dieu. À vrai dire, le terme paraît mal choisi, car privé de sens. Il ne peut y avoir de religion sans qu'il y ait quelque sorte de Dieu qui en soit l'objet, même si de cet objet, comme chez les Romains de la décadence, l'existence réelle peut être mise en question. Disons plutôt que la forme du bouddhisme dont nous parlons est une forme de spiritualité, une vie spirituelle détachée de toute religion. Ce n'est pas que le Bouddha nie les dieux, simplement il s'en désintéresse comme de toute existence distincte. La vie spirituelle qu'il prêche tient tout entière en principe dans ce détachement, ce désintéressement absolu à l'égard de tout être, cosmique, humain ou divin. On peut trouver à bon droit une telle espèce de vie spirituelle paradoxale. Mais le fait est qu'elle existe et qu'elle a été et demeure, au moins pour un certain nombre d'âmes, une expérience dont on peut déplorer l'inanité finale, dont on ne saurait contester ni la réalité psychologique, ni la grandeur. Alors, bon, Bouilhet poursuit bien évidemment sur ce qu'on peut définir comme vie spirituelle et il va préciser bien sûr la vie spirituelle dans le christianisme. quelle que soit la portée des distinctions auxquelles nous sommes parvenus, et d'autant plus même qu'on les gardera présentes à la pensée, on ne peut manquer d'être frappé par un fait constant. Quand on étudie l'ensemble de l'histoire humaine ou qu'on approfondisse la psychologie d'un quelconque individu, l'on fera la même constatation. Et c'est que la vie intérieure d'elle-même tend à se développer en une vie spirituelle, laquelle à son tour, non moins spontanément, s'oriente vers quelque forme de vie religieuse. Les artistes, les poètes peuvent être des matérialistes militants, mais leur seule passion pour faire une œuvre d'art, une œuvre poétique, traduit le besoin inhérent à toute vie intérieure intense de dépasser le cloisonnement de l'individu, de devenir communication, communion. Et rien n'est plus frappant dans le rêve intérieur de tant d'hommes que sa tendance passionnée vers un monde dont la réalité nous dépasse, subsiste, existe indépendamment de nous. Ensuite, il parle encore du bouddhisme, mais je reviens au christianisme. Le christianisme apparaît comme une forme de vie spirituelle où notre relation la plus personnelle, la plus intériorisée avec le Dieu lui-même, le plus personnel dans sa réalité transcendante, est pleinement reconnue et formellement cultivée. Rien ne saurait être plus opposé à cet égard à la tendance qui paraît inhérente à toutes les voies de la spiritualité indienne et même celles qui, après avoir été dominées quelque temps par le bouddhisme, l'ont rejetée sous l'une ou l'autre de ses formes. Dans l'hindouisme et dans bien d'autres spiritualités extrêmes orientales qui lui sont plus ou moins apparentées, comme le taoïsme chinois, l'homme spirituel tend à une absorption de sa propre personnalité dans une déité elle-même impersonnelle. Le chrétien, au contraire, tend à un épanouissement complet d'une vie pleinement humaine en même temps que pleinement personnelle dans la découverte d'un Dieu qui est non seulement lui aussi une personne, mais l'être personnel par excellence. Voilà, et puis il va compléter, bien sûr, tout ce qui concerne, en tout cas, la vie spirituelle dans la tradition catholique, dans la tradition chrétienne et la tradition catholique plus particulièrement. Alors, on va se retrouver en spécifiant bien que, justement, la vie spirituelle catholique, elle prend sa source dans la foi à la Trinité. Alors, je vous retrouve dans quelques instants après une courte pause musicale. Oui, donc il y a, et c'est des passages que je choisirai sont extraits de ce chapitre, bien que je vous assure, les autres chapitres sont absolument d'une richesse, d'une très, très grande richesse, vraiment. Mais je vais prendre donc extrait du chapitre 2 sur la vie spirituelle et la parole de Dieu, parce qu'on va voir que même sur certains points, aujourd'hui, où les papes qui se sont succédés ces dernières décennies ont insisté à chaque fois, je pense particulièrement à la Lectio Divina, eh bien, on va voir qu'on n'a rien inventé. C'est vraiment une arme et une force de l'Église. Voyons ce que nous dit Louis Bouillet dans son travail de recherche, parce que c'est ainsi à chaque fois qu'il propose un ouvrage. C'est pour lui toujours, hein, et c'est le propre aussi du théologien, un travail de recherche. Notre vie spirituelle sera chrétienne dans la mesure où nous réaliserons en elle une vie de relation personnelle avec Dieu. Dire cela implique déjà que notre vie spirituelle doit se construire sur la base de la parole de Dieu et de la foi. La parole par laquelle Dieu appelle l'homme à lui. La foi par laquelle l'homme reconnaît et accepte cet appel. À ce principe fondamental, nous avons joint, plutôt comme une explication que comme une addition, cet autre principe que notre vie spirituelle sera catholique dans la mesure où notre relation personnelle avec Dieu se développera dans l'Église. Car la parole de Dieu nous est dite dans l'Église, elle est inséparable de l'Église, de la communauté, à ce point que nous ne pouvons l'accepter vraiment, sinon telle qu'elle nous est apportée par l'Église. Si la parole de Dieu ne doit pas être pour nous une lettre morte, mais un esprit vivifiant, elle doit être portée à notre connaissance dans la lumière vivante du magistère de l'Église. Cependant, suivant une phrase d'or du pape Pie XI, du magistère ordinaire de l'Église, l'organe principal est la liturgie. La première tâche qui s'impose à nous est donc d'expliquer comment notre vie spirituelle doit et peut se nourrir de la parole de Dieu à travers la liturgie. Alors là, il y a tout un chapitre fort intéressant sur la parole de Dieu, qui est vraiment la parole de Dieu comme source, en fait, de la vie spirituelle. Voilà qui nous oriente déjà. Et puis, il y a un autre passage, que je vois le temps qu'il me reste, donc je peux effectivement vous lire quelques extraits. Un autre paragraphe très intéressant sur la parole de Dieu, la Bible et la liturgie. La parole de Dieu, dans les expressions même, les expressions immédiates que Dieu s'est choisies, nous est gardée dans la Bible, c'est-à-dire la collection biblios, qui a donné le mot bibliothèque, c'est-à-dire cette collection de toutes les paroles divinement inspirées qui ont été fixées par écrit. Trop longtemps, les catholiques ont tendu à penser que la Bible devait être laissée aux protestants. Cette pensée, ou plutôt ce préjugé, doit être déraciné et fort heureusement, aujourd'hui, et surtout avec le Concile Vatican II, même dans l'Église catholique, les catholiques redécouvrent véritablement la richesse de la parole de Dieu. Mais l'erreur des protestants n'a nullement été de croire que la Bible est la parole de Dieu et qu'elle doit être reçue comme telle. Ceci n'est point du tout une erreur, c'est la pure vérité attestée par toute la tradition de l'Église. Par contre, le fait de vouloir revenir à la Bible en se débarrassant de tout ce qui est nécessaire pour la garder vivante, pour qu'elle ne se réduise pas pour nous à une lettre morte, que l'esprit ne vivifierait plus, peut-être a été là-dessus aussi négligé par nos frères protestants. Quoi qu'il en soit, nous devons bien chercher dans la Bible l'aliment premier de notre vie spirituelle, mais nous ne devons pas nous en servir de telle manière, c'est-à-dire nous ne devons pas l'utiliser comme une lettre morte dans laquelle notre interprétation individuelle aurait à infuser une vie nouvelle. Pas du tout. Nous devons l'utiliser là où elle demeure, animée par la présence de celui qui l'a dite, qui la proclame, où demeure actif l'esprit même qui l'a inspirée. Mais nulle part, sinon dans l'Église qui est le corps du Christ, la parole vivante de Dieu dans le Christ, ne continue à être présente parmi nous et à nous parler actuellement. Nulle part, sinon dans ce même corps du Christ, l'Esprit du Christ ne demeure comme l'Esprit toujours vivifiant. Et c'est ce que nous expérimentons d'une façon toute particulière dans la célébration liturgique, car l'assemblée liturgique de l'Église est l'assemblée du peuple de Dieu, convoquée par Dieu lui-même, avant tout pour entendre la parole. Observons bien que cette convocation du peuple de Dieu pour entendre sa parole n'est pas quelque chose d'artificiel qui aurait été réalisé comme après coup pour rendre sa jeunesse à un document vieilli. C'est au contraire la voie même suivant laquelle les textes bibliques ont été produits puis rassemblés, la voie suivant laquelle ils devront toujours être reçus comme ils ont été donnés. Pour nous en convaincre, il nous suffit de considérer les tournants décisifs dans l'histoire du peuple de Dieu qui se trouvent être du même coup les tournants décisifs dans l'histoire de la Bible telle qu'elle nous la présente. Alors ensuite, il y a peuple de Dieu, parole de Dieu, en partant de la Bible tout simplement, et notamment de l'Exode, du peuple de l'Exode, où ainsi va nous conduire Louis Bouillet à découvrir que cette vie spirituelle, elle découle de la parole de Dieu. Elle découle de la parole de Dieu, celle que nous vivons. Alors, il y a la lecture liturgique, l'interprétation aussi traditionnelle de la Bible. C'est très intéressant parce que, vous voyez, on ne peut pas interpréter comme on veut la parole de Dieu. Il y a une clé de lecture qui nous est donnée par l'Église, par le magistère. Et ce sont aussi à travers tous les théologiens, les exégètes, qui ont passé des années et des années à étudier, à scruter les Écritures pour que nous puissions justement, en découvrant cette parole, l'actualiser aussi dans notre cœur et dans notre vie. La parole méditée, c'est le mystère de Jésus qui nous est révélé. Et Jésus vient parler à notre cœur par sa parole au moment même où elle est proclamée, où elle est dite. Alors, c'est comme ceci que va poursuivre, justement, en nous donnant même le sens de l'écriture. Comment méditer, hein? Quelle est cette école de méditation, la contemplation. Louis Bouilhet nous parlera aussi de l'office divin, et puis de différentes méthodes, la méthode ignatienne, par exemple, ou la méthode sulpicienne, etc., la passivité, l'activité dans la prière. Et puis ensuite, on va passer à la vie sacramentelle et aussi au principe de la vie ascétique. Alors là, c'est très intéressant parce que c'est toute la doctrine chrétienne aussi qui nous est donnée, avec, en faisant aussi un petit peu un historique, hein, une genèse, pour que nous puissions comprendre toutes les différentes vocations, même apostoliques, et les vocations aujourd'hui, voilà, pour en arriver à la vie mystique. Donc, je n'en dis pas plus, mais je vous invite à vous procurer cet ouvrage très intéressant sur lequel, bien sûr, nous devons travailler, hein, qui nous permet en tout cas de réfléchir, de nous poser aussi des questions et puis de nous réajuster peut-être aussi dans notre manière de vivre notre foi. Ça peut nous aider, bien sûr, dans la conversion, dans notre conversion personnelle. C'est cette introduction à la vie spirituelle de Louis Bouilhet. Il me reste à vous souhaiter de très sainte lecture, à vous retrouver la semaine prochaine et à vous remercier, bien sûr, pour votre attention.
Ta parole est présence, lumière. Vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Ta parole est présence, un souffle presque rien, la fleur offerte en pleine absence, la porte ouverte d'un jardin. Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Ta parole est lumière, une lampe la nuit, en plein désert une rivière, un arbre mort qui refleurit. Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix.
Tendresse d'un message, de savoir que
la prairie de nos visages, que tu embrasses aussi le mien. Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans